There is a Crack in Everything est une exposition qui ouvrira ses portes en janvier 2021 à la galerie Florence Levy à Paris. J'y montrerai des photographies et des peintures. Les photographies ont été faites en 2016. L'exposition est construite autour de leur redécouverte récente, puis de l'assemblage de pièces réalisées en 2019 et 2020. En 2016, donc, accompagnée d'un groupe de chercheurs et d'amis, j'étais allée arpenter deux barrages de haute montagne dans le Valais suisse, la Grande Dixence en premier, puis dans une vallée adjacente, le barrage de Mauvoisin. J'étais fascinée par l'objet, sa forme, prouesse de la modernité, sa fonction, son ambiguïté environnementale, et aussi par sa puissance métaphorique, nous regardions un objet de pur fantasme de la catastrophe. Tout était question de tension, de rétention, de menaces, de possibles fractures, de débordements. Quand est-ce que la construction craque? Qu'en est-il de la résistance des matériaux, de celle des humains, du monde vivant? Quelle pression peut-on exercer sur un être avant qu'il ne craque? Ou sur une communauté, sur un peuple? Quand surgit l'étincelle qui allume le feu? Quand survient la révolte? La redécouverte de ces images m'a replongée dans l'année 2016. Nous étions en pleine campagne électorale de Donald Trump, de celle de Bolsonaro, les murs s'érigeaient dans les discours et aux frontières. J'ai ensuite contemplé les 4 années passées, la tension accrue tout au long du chemin, la succession de failles, de débordements, de feux allumés, des plus dévastateurs, bien réels ceux-là, aux plus émancipateurs. Me too, Black Lives Matter. J'ai souhaité, dans le cadre de cette exposition, inviter 4 autrices à venir lire leurs textes. Clara Schulman, Ellen Giannichini, Marion Vasseur-Ralluy et Rosana Puyol, cette dernière étant éditrice aussi. Les textes d'Hélène et Clara sont parus en 2019 et 2020. Ceux de Rosana et Marion sont inédits. Ces récits et poèmes, le rapport à l'écriture et aux liens établis dans le processus de travail, s'inscrivent selon moi dans ce que le monde contemporain développe de plus bouleversant. Ils relèvent d'un acte de résistance aussi intime que collectif, qui d'une façon ou d'une autre semble avoir mené chacune d'elles, les autrices, à faire tomber un mur, à fracturer un barrage. There is a crack in everything, that is how the light gets in, a chanté Leonard Cohen. Ces 4 écritures, ces 4 voix font l'objet d'une série de rendez-vous radiophoniques. Clara Schulman enseigne la théorie aux Beaux-Arts de Paris. Elle mène une activité d'écriture critique depuis plusieurs années qui l'amène sur différents terrains, entretiens, récits, essais. Ce sont surtout les rencontres occasionnées par l'écriture qui l'intéressent. Clara lit ici des extraits choisis de son essai « Zizanie » paru en mai 2020 aux éditions Paraguay Press et qui consiste en une investigation sur les voix des femmes, leurs timbres, leurs hésitations, leur silence, leur puissance aussi, puisant dans l'histoire du féminisme, dans celle du cinéma ou de la littérature, mais aussi dans une réflexion intime et quotidienne. Clara Schulman engage une subtile écoute des voix des femmes qui traversent ou peuplent sa vie tout au long de sa recherche.
Chapitre 6. Irritation. Devenir une héroïne. À Bordeaux. Je traverse la place Saint-Michel sous la pluie en écoutant Nathalie Quintane sur France Culture. Elle trouve que ça suffit, cette idée que la littérature serait là pour sauver, penser, réparer. Je la cite. Au fur et à mesure que le monde se casse la gueule et que nous-mêmes, nous sommes de plus en plus perturbés, déstabilisés, inquiets, angoissés, stressés, en dehors des livres de développement personnel ou de coaching mental, la littérature est vue comme une aide, personnelle, privée, pour se sentir mieux. Je ne dis pas que ça ne peut pas servir à ça aussi, mais il me semble qu'il ne faut pas s'arrêter là. L'enfermement dans une forme de méditation contemplative, consolative, tue, nous tue, et tue la littérature aussi. En entendant sa voix, un peu tendue, mordante, je reviens en arrière, au début de mes recherches. L'irritation comme motif m'est venue en pensant à ces livres et aux effets qu'ils produisent. Les sujets dont Nathalie Quintane traite, les atmosphères qu'elle construit, suscitent une forme irritée, placée entre une colère contenue et un humour ou une ironie travaillée vraiment à la surface de la phrase. Cette pensée au travail décrit bien la situation contemporaine, insatisfaisante, un peu ruminante, qui fait du surplace, mais qui tente d'en faire quand même quelque chose. Cette traduction de l'agacement vers une forme littéraire me plaît. L'irritation est à la fois ce dont parlent certains textes de Nathalie Quintane, mais aussi la façon dont les aspérités de la langue orale viennent déranger la régularité de l'écriture. En 2006, Quintane est interviewée à propos de son livre « Cavale ». Le journaliste lui demande si la fuite est une solution à la déprime. Elle répond « Non ». Si fuite il y a, je l'ai dit, c'est plutôt celle des idées. Mais certes, si on veut fuir au sens concret, c'est peut-être aussi parce que nos idées fuient. C'est un compte-rendu de l'ambiance actuelle, ce dont tout le monde parle, sans parvenir à le définir vraiment. On lui demande si elle fait référence à la situation politique actuelle. « Non, » répond-elle, « à la mienne. Enfin, cela vient des discussions bizarres que je peux avoir avec des amis à propos de ça. On a la quarantaine, on est éduqué, et pourtant, il y a des moments où c'est pire que l'affaire Villepin-Sarkozy. C'est le marécage mental complet. Cette difficulté à penser l'avant, l'après, le pendant. Mais je crois que c'est une époque bénie pour moi, concernant la fuite des idées. Je retrouve en vrai cette brouillasse qui me travaille depuis toujours. Rien n'est sûr. À différentes reprises dans ma vie professionnelle, je me dis que je dois apprendre à ravaler ma colère. Je vois et j'expérimente à quel point, lorsqu'elle se manifeste publiquement, elle est difficile, voire impossible, à accepter. Et puis, je sens qu'elle m'isole, me sépare. Je lis dans le dictionnaire « ravaler », deux points. Empêcher une parole, un mouvement, un sentiment de s'exprimer. Avaler sa salive, sous l'effet de l'émotion, de l'inquiétude, de l'hésitation, mais surtout, faire redescendre dans le gosier. Un compte-rendu de l'ambiance actuelle, dit Quintane. L'irritation est sans forme, mais elle gratte. Elle se rappelle à nous constamment, elle s'installe. Rentrée, intérieure, elle peine à trouver sa voie. Même si la colère offre une décharge, immédiate, efficace, je choisis donc ici l'irritation, sans doute moins fertile, mais plus fédératrice. Plus feutrée, plus inodore, elle s'inocule comme un virus. L'irritation me semble mieux partagée que la colère. Dans les années 1990, l'artiste Caroli Schneemann est interviewée par Alexandra Djouhas, qui mène une enquête sur les liens entre engagement féministe et espace médiatique. Clairement, l'entretien bascule sur d'autres thématiques et laisse entrevoir que l'irritation n'est pas sans lien avec l'humour. Alexandra Djouhas, je voudrais évoquer l'influence qu'a eu votre travail. J'aimerais savoir ce que l'on vous doit. Caroli Schneemann. Vous me devez la vulve, vous me devez le concept d'espace vulvique, vous me devez la bestialité, vous me devez l'amour de la présence des chats comme puissants compagnons et comme énergie. Vous me devez le plaisir hétérosexuel et la représentation de ce plaisir. Et vous me devez 30 ans de travail qui n'a jamais été vu. C'est ça que toutes et tous vous me devez. Je suis contente que vous m'ayez posé cette question. Personne ne me l'avait jamais posée. Voyez comme je fulmine à l'intérieur. Alexandra Djouhas, donc c'est une histoire de colère et de frustration, c'est aussi une histoire de perte. Caroli Schneemann, une perte immense, une perte personnelle. Des ruptures. Il y a toujours eu ce conflit sous-jacent avec mes amants, entre d'une part le plaisir et l'excitation d'être avec une artiste qui soit leur égale, et l'issue sans surprise qui consiste pour eux à vouloir des enfants et un mariage traditionnel. C'est un sentiment de perte considérable. Bien sûr, on finit toujours par tout perdre, un jour ou l'autre, mais on préfère que cela arrive le plus tard possible. Alexandra Djouaz. Et la colère ? Caroli Schneemann. En fait, la colère a à voir avec l'humour et le plaisir. La colère doit s'aiguiser. Vous prenez votre colère et avec votre plus grande masse, vous cognez dessus jusqu'à ce qu'elle soit bien taillée. Ça doit devenir drôle et scandaleux et revêtir une forme esthétique. Ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà bien. Benjamin me prête le livre de Nicole Laureau, La voix endeuillée. L'historienne y explique comment l'oubli du conflit est nécessaire au bon fonctionnement de la cité antique. C'est parce que l'on avale les potentialités conflictuelles qui ne cessent de border le contrat social que celui-ci est maintenu. Pourtant, la voix endeuillée d'Electre est un exemple de ces voix qui s'élèvent et qui refusent de maintenir ce contrat à flot. Ces figures de femmes antiques qui portent leur colère partout avec elles me fascinent. Electre est pénible avec sa colère. D'ailleurs, même le cœur le lui dit. « Ton deuil est excessif, ta lamentation trop intransigeante. Tu n'es pas la seule des mortels qui ait vu la douleur. » Son refus de l'amnistie me reste dans la tête. Les développements de Nicole Laureau sur l'idée du « toujours » déploient l'idée de la permanence de la colère au sein de temporalités ou de scénarios multiples. Elle parle d'une répétition constructive dans une continuité sans rupture. Ces logiques de perpétuation auxquelles croient les héroïnes tragiques, la fixation de ce temps au-delà du temps, c'est cela qui constitue leur folie. L'incantation se fixe dans la plainte, qui rime avec toujours. Une forme de négativité dont on refuse de sortir et que les femmes semblent connaître comme personne. Je décide de laisser une place à cette inflammation oratoire, un peu rentrée, qui peine à trouver sa forme, qui tombe souvent à l'eau. Je commence à collecter ces moments où les discours s'enflamment. Le cinéma et la littérature récente m'offrent des exemples intéressants. Mais une fois que l'on y est attentif, la vie de tous les jours déborde littéralement de ces situations, justement bien plus fortes que des exemples, qui sont comme gorgées de détails, de textures, de mots et de gestes qui tissent l'irritation. Mes discussions téléphoniques avec des amis demeurent le meilleur poste d'observation possible pour la mesurer. Ces échanges s'agrippent à un quotidien incroyablement pris de vitesse. Les récits de vie qui tentent de maintenir les projets professionnels, les situations amoureuses, les voyages, les enfants, la maison, tout ensemble. À plusieurs reprises en raccrochant, je regrette de ne pas avoir enregistré ces échanges. Ils sont l'image la plus aboutie de vie traversée par l'agacement, l'énervement et les déceptions, et qui, avec humour, renverse la vapeur, refuse les fatalités. Il en résulte bien souvent l'impression que ces personnages féminins, très réels, ceux qui m'entourent, sont de véritables héroïnes, championnes de l'organisation autant que du chaos, et que leur capacité à raconter ou mettre en relation les épisodes épars de leur quotidien relève d'une qualité littéraire. Le facteur de liaison entre ces épisodes, c'est l'irritation, qui vient écorner les transitions, qui chahute et complique une simple et languide acceptation des difficultés. L'irritation les rend exigeantes, acérées, énervées, capables de demander des comptes. C'est cette capacité de dramatisation qui m'intéresse, car elle équivaut à une mise en récit. J'en tire la conclusion temporaire que l'irritation fait de nous des héroïnes. J'ai le souvenir précis d'avoir, lors d'un genre de rhinopharyngite, contracté une toux incroyable qui a duré des semaines. Une toux d'irritation. Particulièrement active la nuit, elle venait se loger dans mon sommeil, me réveillant au milieu de mes rêves. Mais elle ne réveillait pas que moi, et bientôt je fus mise en quarantaine, assignée à une chambre plus lointaine, où mon irritation ne dérangerait personne d'autre. La toux, comme motif cette fois, m'avait occupée il y a longtemps alors que j'écrivais sur le film de Peter Watkins, Edgar Munch, La danse de la vie, 1974. La toux y était travaillée comme le principe physique et sonore de la maladie qui ravage son entourage, la tuberculose. Surgissant au détour d'un plan, d'une phrase, faisant hoqueter le cadre même de l'image, la toux est annonciatrice de mort. Elle s'insère dans les activités les plus quotidiennes. Catherine Mansfield semble avoir, elle aussi, connu des toux nocturnes. Je la cite. On dirait que je passe la moitié de ma vie à arriver dans des hôtels étrangers. La porte inconnue se referme sur l'étrangère et alors je me glisse entre les draps. J'attends que les ombres sortent des recoins et tissent leur lente, lente toile sur la plus laide de toutes les tapisseries. L'homme qui occupe la chambre voisine est atteint de la même maladie que moi. Quand je me réveille la nuit, je l'entends se retourner. Puis il tousse, et je tousse, et après un long silence, je tousse, et il tousse de nouveau. Cela continue longtemps comme ça, jusqu'à ce qu'il me semble que nous sommes deux coqs qui s'entrappellent à la fausse lueur d'une aurore, qui s'appelle de ferme cachée au loin. L'actrice Jeanne Balibar est interrogée à la radio sur La Dame aux Camélias, spectacle adapté du roman d'Alexandre Dumas dans lequel elle joue. Je la cite. « On peut voir La Dame aux Camélias comme un texte pas si passionnant d'un point de vue littéraire, politiquement assez dégueulasse, mais très intéressant parce qu'il est symptomatique de cette France de 1848 où il a été écrit. Et finalement, toutes ces quintes de toux de Marguerite, ce sont aussi les espèces de spasmes révolutionnaires de cette France de 1848. En 1848, la France est allée de révolution en révolution, de tentative révolutionnaire en tentative révolutionnaire. Donc il y a cette espèce de corps social français qui essaie de faire advenir de la liberté et de l'égalité et de la fraternité et qui n'y arrive jamais. Et c'est quelque part ça aussi, Marguerite Gauthier. En février 2017, Joan m'envoie un lien vers le poème de Nina Donovan, 19 ans, étudiante en sociologie de Franklin, Tennessee. Le poème s'appelle « Nasty Woman ». Elle l'a écrit en réplique à Donald Trump, qui traite Hillary Clinton de « Nasty Woman » durant leur débat présidentiel. Filmée avec un téléphone, on la voit, toute menue, habillée d'un pull orange et d'un jean noir élimé, s'approcher d'un micro planté sur une scène. Quelques fans l'encouragent, et puis elle commence à dire son texte. Sa voix est claire, assez aiguë, ses mains s'agitent dans l'air. Elle est droite comme un piquet, sa voix ne flanche pas. En même temps qu'elle récite, on dirait qu'elle nous parle très simplement, qu'elle nous raconte une histoire. Mais le ton monte, le rythme est incroyable, l'histoire s'emballe, et les références à l'Amérique de Trump, sa violence, son racisme, les inégalités qui se creusent, font de sa voix fluette le véhicule d'une irritation sans borne. Le texte est repris lors de la Women's March du 21 janvier 2017 par l'actrice Ashley Judd, mais c'est incomparable. Cette voix de jeune femme résonne avec une force incroyable. À l'image de celle d'Emma Gonzalez, née en 1999, lycéenne rescapée de la fusillade de Parkland en Floride en février 2018. C'est toute jeune fille devant des micros, sérieuse, véhémente. Nous en parlons souvent avec Joan, qui enseigne comme moi en école d'art et qui regarde avec attention les étudiantes qui nous entourent, ce qui les fâche, ce qui les mobilise. Citation d'Anne Carson de Gender of Sound. Dans l'enceinte de l'espace civique de la police, ou à portée de voix des hommes, les femmes grecques des périodes archaïques et classiques n'étaient pas autorisées à laisser éclater des manifestations sonores non réglementées. Il se trouve que dans cette culture, la masculinité se définit elle-même à travers les différents usages qu'elle fait du son. La continence verbale est un élément essentiel de la vertu masculine. Appelée sophrosyné, qu'on traduit par prudence, équilibre, modération, tempérance, maîtrise de soi. Vertu masculine qui organise une partie de la pensée patriarcale concernant l'éthique ou les émotions. En général, on considère les femmes de la littérature classique comme une espèce soumise à une décharge incontrôlable et désordonnée de sons, hurlements, gémissements, pleurs, lamentations stridentes, rires bruyants, cris de douleur ou de plaisir et autres éruptions d'émotions brutes. Comme Euripide le dit dans Andromaque, le plaisir instinctif de la femme consiste à avoir toujours ses émotions au bord des lèvres et sur le bout de la langue. Holly, l'une des sœurs d'Anna dans Anna et ses sœurs de Woody Allen, 1986, est comédienne. Elle cherche continuellement des solutions de vie et de travail. Elle s'associe un moment avec l'une de ses amies, April, et elles développent ensemble l'entreprise Stanislavski qui propose des services de restauration pour des cocktails. Lors d'une réception, Holly et April rencontrent Davin Tolchin, architecte amateur d'opéra, qui vient se ravitailler à la cuisine. Il est intelligent et sûr de lui, un mélange de vulgarité légère et décomplexée. Il leur plaît à l'une et l'autre immédiatement. Elle l'interroge sur ce qu'il fait, il leur demande si cela les intéresse vraiment, et en réponse à leur envie d'en savoir davantage, il leur demande à quelle heure elles terminent leur service. Une coupe franche récupère les trois personnages dans une voiture, devant un bâtiment qu'il a récemment construit. S'ensuit un improbable échange sur l'architecture, improbable dans le sens où il sert de façade aux intentions réelles de la séquence. Comme souvent chez Woody Allen, le recours à la culture au sens large offre des prétextes à des joutes oratoires, des monologues enflammés ou des échanges stéréotypés, autant de boucles rhétoriques qui brassent le vide et entretiennent les relations sociales, le plus souvent faites de séduction. Après la discussion dans la voiture, à nouveau à la demande des deux jeunes femmes, l'architecte les emmène voir les bâtiments qu'il aime à New York. Ostentatoire, grandiloquent, rythmé par Madame Butterfly de Puccini, ce passage du film est à l'image du personnage masculin. À la suite de cette visite guidée, ils se retrouvent tous les trois devant la voiture de l'architecte qui doit maintenant choisir laquelle des deux jeunes femmes il ramènera en premier chez elle. Ce sera Holly, car elle habite à Chelsea. Ses espoirs de passer du temps seul avec l'architecte s'effondrent. Depuis les sièges passagers à l'arrière, elle commente en voix off ce qui vient de se passer, sa jalousie à l'égard d'April, qui s'en est mieux sortie, qui a su dire ce qu'il fallait au bon moment. Curieusement, Woody Allen choisit à nouveau Puccini en toile de fond de la confession de Holly. Vengeance sur la séquence précédente, violemment prise en otage par la parole et les certitudes de l'architecte. Les doutes de Holly, son auto-apitoiement, drôle aussi dans la façon qu'elle a de se regarder, dessinent une irritation que tout concourait à mettre progressivement en place. Cette irritation est sans objet défini. La jeune femme s'en veut autant qu'elle en veut aux autres. Sa voix déconstruit l'ensemble de la scène à laquelle on vient d'assister. Elle en est l'appareil critique, épidermique. La voix irritée de Holly est l'image d'un ratage féminin pris dans les raies de ses propres doutes, de ses incertitudes. Mais la séquence déroule aussi un processus de réappropriation via la musique. Une partition ternie par l'autosuffisance regagne une tonalité nouvelle, vaillante. L'ironie de la jeune femme contredit les assurances de l'architecte. Il était juste dans l'image, elle se venge dans le secret de la voix intérieure. Les lignes de dérivation qu'elle construit sont autant de stratagèmes pour résister au recouvrement masculin dont elle vient de faire les frais. Son irritation est finalement joyeuse. En avril 2016, Joan à nouveau me signale le discours d'investiture de son héroïne écossaise, Mehairi Black. Née en 1994, elle est à 20 ans la plus jeune députée du Scottish National Party à être élue au Parlement. Mehairi Black est réputée pour ses prises de parole franches et vigoureuses. Sur la question de son « coming out », elle avait répondu « I've never been in ». Le 17 mars 2018, elle témoigne des torrents d'insultes qu'elle reçoit par email. Elle en fait la lecture au Parlement, ses notes à la main. Son accent, qui me rend ses interventions littéralement incompréhensibles, participe au plaisir que je prends à l'écouter et devient synonyme de son irritation. Le texte qui suit est dit par Jane Fonda, Regard caméra, dans Tout va bien, 1972, de Jean-Luc Godard, tourné dans la foulée de mai 68. Reporter américaine basée en France, le personnage dit ce texte en anglais, mais sa propre voix la double en français. Il faut donc ici imaginer l'accent de Jane Fonda, très limpide et cristallin, lorsqu'elle parle français. Il s'agit d'une interview dans laquelle elle livre ses doutes de journaliste, sa difficulté à trouver la bonne manière de décrire ce dont elle aimerait parler. Jane Fonda. J'en ai vraiment assez. Si ça continue, ça va finir par se passer comme ça toutes les semaines. Oui, cela va faire 3 ans et demi que je travaille à l'American Broadcasting de Paris. Au départ, je faisais partie du service culturel. Critique littéraire ou cinématographique, ça dépendait. Enfin, je m'emmerdais ferme à faire ces trucs-là. Je suis passée aux politiques après mai. Pas totalement, en fait. On m'a laissée à cheval entre deux rubriques. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'ils ont complètement été pris de court par mai. Et j'en ai profité. Ça leur a amené des trucs. J'ai proposé des enquêtes. C'est insensé parce que maintenant je me bats toutes les semaines pour leur faire admettre qu'il faut absolument parler de tel truc ou tel truc. Et en même temps, je sais très bien que moi, je suis incapable de l'écrire. Pendant une semaine, je travaille comme une folle sur un sujet et je n'arrive à rien. C'est peut-être une question de style. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un style de la boîte. Écoutez les émissions, on a vraiment l'impression que c'est toujours la même personne qui a pensé et écrit tout. Bon, alors moi, je m'aperçois que pour parler de ce dont je veux parler, ce style ne sert à rien. Ça vient aussi des choses elles-mêmes, comme si elles vous obligeaient à écrire ou à parler d'une façon différente. Enfin, je ne sais pas. Plus je pense, moins j'ai l'impression de comprendre ce qu'il se passe. Les choses qui m'intéressent en France me deviennent complètement opaques. Je suis une correspondante américaine en France qui ne correspond plus à rien. Immédiatement après cette séquence, on la voit s'installer dans un studio d'enregistrement. La caméra est placée du côté de la régie technique, derrière une vitre. Un lampion rouge s'allume et Suzanne démarre l'enregistrement d'un texte qu'elle a rédigé. Mais ça coince, elle n'est pas satisfaite, veut reprendre depuis le début. À nouveau, elle bloque. « It's crap !» dit-elle en parlant de son texte. Le plan suivant la récupère chez elle, face à son compagnon, Yves Montand, pour leur scène de rupture. Dans un ouvrage sur Godard, Kaja Silverman emploie le mot « mariage » pour parler des relations entre voix et image. Chez Godard, ce mariage a rarement lieu. Entre la voix américaine et la voix française de Jane Fonda, pas de réconciliation possible, comme au sein du couple qu'elle forme avec Yves Montand. Cette asymétrie a pour effet de faire vaciller la dimension personnelle de ce dont parle le personnage de Suzanne. Kaja Silverman l'explique bien. Godard nous empêche de considérer les problèmes, quels qu'ils soient, comme des propriétés privées. Les liens entre voix et image vont plutôt dans le sens d'une mise en commun des soucis. Au fond, nous avons tous plus ou moins les mêmes et personne n'en est propriétaire. Notre irritation nous rassemble. Jane Fonda, c'est moi. Selon Sian Njai, qui enseigne la littérature à l'Université de Chicago, l'irritation serait à classer du côté d'une colère incorrecte, inadéquate, qu'on ne peut rapporter ni à une occasion particulière, ni à un objet précis. Elle raccorde l'irritation à un mood, une atmosphère, plus qu'à une émotion. À la fois surplus et déficit, l'irritation, à l'image de Holly rassemblant ses forces pour ne pas identifier la cause exacte de son énervement, semble déborder, s'accrocher au moindre élément qui peut lui être soumis. En matière de mesure ou d'objet, elle n'est jamais exactement bien placée. Mais les analyses de Sian Njai sur l'irritation sont précieuses car elle insiste surtout sur la donnée physique, corporelle de l'irritation. Je la cite. Que l'irritation se définisse comme une expérience émotionnelle ou bien physique, ces synonymes tendent à s'appliquer de manière équivalente à la vie psychique et à la vie corporelle, et tout particulièrement à sa surface ou à la peau. En plus de inflammation, rugosité et tiraillement, par exemple, l'irritation, quand elle provoque une contrariété, devient aussi hypersensibilité, susceptibilité ou sensibilité. Autant de mots qui contiennent une dimension explicitement affective et qui vont servir de marqueurs sociaux dans le discours que le XIXe siècle développe autour des nerfs. Fin de citation. L'irritation qui m'intéresse ne se cantonne pas à des inflexions de voix changeantes, agacées et réactives. Elle implique les corps, qui portent parfois les signes de ces transformations. L'hypersensibilité corporelle que pointe Sian Njai permet aussi de remonter le cours de l'histoire. Les fameux nerfs du XIXe siècle, le script culturel qui placera entre les mains des femmes la toxicité de l'hystérie, tout cela affleure dans l'irritation. Je lis un article dans Libération sur Marianne Faithfull, sa voix rauque, son interprétation de Sister Morphine, chanson coécrite avec Mick Jagger et Keith Richards en 1969, alors qu'elle a 23 ans, avant qu'elle ne touche à l'héroïne, qu'elle consommera jusqu'à 40 ans. Hospitalisée et sevrée, elle découvre la vraie vie et les sensations. Elle subit une rage de dents pendant des semaines sans se plaindre, convaincue que la douleur est normale dans une vie sans drogue. Ce malentendu l'a conduit à une opération ouverte de la mâchoire. Pour le coup, c'est la douleur, considérée comme une simple irritation, qu'elle aura courageusement réussi à ravaler. Parmi mes podcasts, je tombe sur un texte écrit et lu par l'écrivaine Zadie Smith dans le New Yorker. Billie Holiday se parle à elle-même vers 1957, 2 ans avant sa mort, au moment où les dettes, la drogue et l'alcool terrassent la chanteuse. On dit que dès les années 40, sa voix en était affectée. Sa diction se perd, son sens du rythme aussi, son timbre devient plus rauque, râpeux. Comme s'il se positionnait ailleurs, le texte de Zadie Smith ne raconte pas ses ravages supposés. Le texte m'intéresse pour sa transcription d'une voix intérieure, parce que Billie Holiday est une chanteuse, une voix noire. Dans son introduction, Zadie Smith décrit cette voix comme prise entre plaisir et douleur, delight and pain, mais aussi parce que le monologue est un peu vindicatif, traversé par l'agacement. Billie Holiday a l'air excédée. Or, cet agacement provient, entre autres raisons, de la façon dont on parle de sa voix. Je la cite. Tous ces collectionneurs de downtown et ces femmes blanches dans leur fourrure de luxe adorent parler de ton phrasé. C'est la mode de parler de ton phrasé. Mais ce qui sonne comme une révolution aux oreilles des autres relève juste du bon sens pour toi. Malgré tous les respects que tu as pour Ella, pour Sarah, quand ces filles ouvrent la bouche pour chanter, bah pour toi, c'est comme si quelqu'un ouvrait la porte d'un frigidaire tout neuf. Un grand coup de froid t'envahit. Et toi, c'est pas du tout ta manière de faire, tu t'y refuses. Pour toi, c'est évident que la voix fait la même chose, musicalement parlant, que le saxo, la trompette ou le piano. C'est par les sentiments qu'une voix s'impose. Franchement, qui ne sait pas ça ? Dans une intervention prononcée en 2008 à la New York Public Library, Zadie Smith développe longuement son propre rapport au langage. Le patois, le slang, les accents qualifient presque avant toute chose les personnages de ses romans. Elle y raconte la façon dont sa voix anglaise, comme elle dit, lui est arrivée tard au lycée, une voix lettrée qui n'était initialement pas la sienne. Son parcours a consisté à mixer les accents, les langues, perdant progressivement de vue le dialecte urbain de son enfance. Cette période de sa vie, durant laquelle elle a été doublée, parlée par de multiples voix, fut décisive. Valérie Solanas est connue pour son Scum Manifesto, brûlot féministe qu'elle diffuse à New York en 1967 et pour avoir tiré sur Andy Warhol. Lorsqu'Avital Ronell s'empare de cette figure, elle fabrique un texte vénéneux qui se pose une question importante à propos de l'irritation. Peut-on la traduire par un passage à l'acte, comme Valérie, qui passe du manifeste littéraire au flingue. L'autorité patriarcale à défaire, les enclos qu'il faut faire sauter, ça gratte, ça irrite, quand est-ce que ça nous fait agir autrement que par des mots ? Avec Valérie, quelque chose se déclenche, quelque chose arrive, écrit Avital Ronell. Son texte démarre ainsi. Plus que tout, Valérie Solanas voulait écrire. Faute de pouvoir distribuer son œuvre, elle s'en prit à des mitonymies de ses cibles déclarées. Mais voilà que je dégaine trop vite. Revenons en arrière pour nous former une impression de Valérie Solanas et du non-lieu qu'elle occupe rigoureusement. À peine représentable ou représentative, elle fut une tâche, un spectre aux marges de l'écriture extrémiste. Ses textes étaient chargés d'ironie, pointés vers le réel. Confinée dans l'enclos réservé à l'énonciation parasitaire, elle adopta le langage d'une peste, brancha un certain type de discours qui joue le contre-pied tout en ressemblant à un discours d'incitation à la haine d'ordre quasiment racial. Si vous êtes cataloguée comme femme, votre hurlement pourrait être noté comme élément d'un ensemble de feintes subalternes. La jérémiade, la récrimination, le harcèlement, le bavardage, l'ineptie qui ont tant servi à déprécier ou à étiqueter dans l'histoire, le discours des femmes. Ainsi, l'irritation est un moteur, narratif, activiste, littéraire, qui fait de chacune une héroïne potentielle si nous acceptons les logiques parasitaires plutôt que le maintien d'un paresseux statu quo. Celui qui fait dire à Nathalie Quintane, toujours sur France Culture, que l'odeur des fleurs chez Proust, d'accord, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Certes, explique-t-elle, le parfum des fleurs est important. Dieu sait qu'on en a besoin du parfum des fleurs et du vrombissement des insectes. D'autant plus qu'ils sont tous en train de se casser la gueule partout. Ça, c'est intéressant. Mais ne nous contentons pas de ça. ne nous contentons pas de ressentir un peu plus, un peu mieux, un peu plus finement le monde sensible qui est autour de nous. Ce monde sensible, il est en train de se casser la gueule. Donc il va falloir qu'on ait un usage de Proust qui aille au-delà de simplement goûtons pour nous-mêmes ce qu'il y a de beau dans ce monde. La beauté ne va pas suffire tout le temps. Mes séjours bordelais sont rivés à une situation immobilière improbable. Nous sommes en recherche permanente de logement, avec des périodes de rémission, puis de brusques crises, car les solutions se raréfient d'un coup. Madeleine, qui enseigne dans la même école que moi, traverse avec moi ces épisodes. Nous prenons des rendez-vous que nous essayons de coupler avec nos temps d'enseignement. Parfois, cela crée des déconvenues, des malentendus. Nous découvrons ensemble, en rentrant un soir dans le train, ce message téléphonique laissé par une agente immobilière avec qui nous étions en pourparlers pour une visite d'appartement. Son infini monologue, qui parvient dans son étirement à ne jamais mentionner les raisons de nos échanges, mais qui déborde d'irritation, donne une image possible de nos séjours bordelais. Oui, bonjour Madeleine, bon bah écoutez, c'est Nathalie. Je suis un petit peu gravement surprise de votre comportement parce que hier soir on a quand même longuement échangé. Je vous avais expliqué un petit peu mes impératifs, vous aviez insisté. Sachant que vous repreniez en janvier et que vous partiez dès ce soir à Paris. Enfin voilà, je ne vais pas vous ressortir notre conversation, je pense que vous vous en souvenez autant que moi. Et là j'avoue que bah oui, je suis assez désagréablement surprise parce que moi j'ai pris des dispositions pour vous et pas de nouvelles. Un pauvre texto pour me dire, enfin bref, je trouve que c'est pas très respectueux. Après, je conçois, je suis pas la première à dire, il n'y a pas de souci. On a tous des vies compliquées, des rendez-vous, des ci, des là, des obligations. Ça, on est tous logés à la même enseigne. Mais je suis quelque peu déçue, oui, de votre façon de faire les choses, là. Donc, bah écoutez, comme je vous ai dit, moi je suis disponible maintenant. Sinon, après, ce sera dans la soirée. Et puis voilà, Madeleine, vous m'aviez l'air de quelqu'un de sérieux qui parlait au nom de deux, au total trois personnes. Vous aviez l'air d'être, voilà, respectueuse, etc. Et je m'aperçois, enfin, de toute façon, c'est un peu ça l'apanage de mon métier, c'est que j'envoie des vertes et des pas mûres. Et il faut jamais se fier aux apparences, Madeleine. Bon, eh bien, vous avez mon numéro. Vous savez quoi faire ou ne pas quoi faire. Parce qu'après, la technique de l'autruche, c'est très connu aussi, hein, les gens qui n'assument pas ce qu'ils font. En tout cas, ce sera avec plaisir que je recevrai votre appel. L'erreur est humaine. Mais c'est aussi bien de savoir s'excuser et de ne pas prendre les gens, enfin voilà, mon temps à moi aussi est précieux, Madeleine, il est très précieux. Je vous souhaite d'excellentes fêtes, Madeleine, et c'est très sincère ce que je vous dis. J'imagine que vous avez dû avoir moult empêchements pour ça, mais j'aurais préféré vous avoir quand même de vive voix au téléphone, ne serait-ce que par courtoisie. Voilà, Madeleine, vous savez le fond de ma pensée, moi je suis quelqu'un de vrai, de sincère, je dis toujours les choses en face et ça n'empêche pas que deux secondes après, la vie continue et tout le monde a le droit de changer. Mais j'aurais véritablement apprécié un coup de fil de votre part. Je vous souhaite d'excellentes fêtes, je réitère, à vous ainsi qu'à vos collègues. Que faire d'un pareil bloc de parole lorsqu'il arrive à vos oreilles en fin de journée, après les interruptions, les apnées, les débordements, les prises de vitesse et les irritations qu'on a tant bien que mal traversées? Que faire de cette voix inconnue qui s'immisce, s'installe, qui prend le temps de développer un état d'âme, une humeur aussi brute? Peut-être commencer par lui reconnaître sa puissance littéraire, narrative, et confier ainsi au flux du quotidien, aux gens qui nous entourent ou que l'on décide d'écouter, la réserve la plus fournie de récits et d'histoires dont dépendent nos envies d'en découdre.